Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Nous voici en cette rentrée sur Radio Lapourdi et Radio Présence avec vous, Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous nous retrouvons donc pour cette émission que nous essayons de faire mensuelle, où nous voyons avec vous, Monseigneur, tous les sujets du moment. Alors déjà, on va faire quand même un retour sur le grand événement de cet été. Ce sont les Journées mondiales de la jeunesse, où vous avez accompagné vous-même pendant ces 15 jours 350 jeunes du diocèse. On imagine une expérience extraordinaire. Alors, on va faire petit à petit. Déjà, la première semaine, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Je crois que la première semaine se passait dans le diocèse de Viseu, donc au Portugal, mais dans des familles, c'est ça?
C'est ça.
Vous-même étiez dans une famille ou...
Non, moi, j'étais au... Et on m'avait logé au séminaire, mais j'étais avec deux autres prêtres.
Donc, vous retrouviez les jeunes tous les jours?
Ah, bien sûr, tous les jours, oui. Alors, cette première semaine s'est très bien déroulée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est qu'on est parti le 25 au soir après une messe d'envoi à Saint-Amand.
Donc, 25 juillet.
25 juillet, pardon, qui était très belle, avec un groupe d'Allemands de passage aussi, et leur évêque auxiliaire qui les accompagnait. Et puis, nous sommes arrivés au petit matin à Fatima. Donc, on a commencé par une journée à Fatima. Donc, prier à la chapelle des apparitions. Puis, sur le chemin de croix, dans la Cova d'Aérelia, on a célébré la messe en plein air, là, et c'était très beau. Après, une petite catéchèse bien dynamique et tonique de l'abbé Emmerich Merkens. Et puis nous avons été reçus dès le soir même par les familles, la paroisse d'abord de Satan, qui est une petite ville du diocèse de Viseu, autour de laquelle les jeunes étaient répartis dans des petits villages, dans des familles. Et qu'est-ce qui m'a marqué le plus? D'abord, c'est vraiment l'accueil des Portugais. C'est un peuple qui mérite d'être connu, avec lequel on a beaucoup de contacts.
Vous avez bu du Porto?
Oui, bien sûr. Ils sont très proches de nous du fait de l'immigration portugaise qui était assez importante dans notre diocèse et dans notre pays, la France, mais en particulier dans notre diocèse. Et donc on a été très bien impressionnés par la chaleur de l'accueil, la disponibilité, la gratuité de ces familles qui sont tout de suite... ces jeunes ont tout de suite été considérés comme des membres de la famille, quoi. Ils se mettaient en quatre pour nous rendre service. Magnifique. Et je crois d'ailleurs, ce qui était marquant aussi, c'est que nos jeunes ont donné aussi un beau témoignage de ferveur, d'expression de la foi à travers les célébrations qui étaient très belles. Il y avait ce groupe de jeunes musiciens et chanteurs qui animaient toutes ces célébrations communes. Et je sais que les Portugais jeunes ou plus ou moins jeunes ont été très impressionnés par la qualité quand même spirituelle de nos jeunes. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que cette première semaine, à la fois, on a suivi le programme que nous avait proposé le diocèse de Viseu, et en même temps, il y avait des temps où on pouvait se retrouver pour les célébrations de l'Eucharistie, pour des petites catéchèses. J'étais bien, bien impressionné aussi par les encadrants, que ce soit les jeunes adultes qui faisaient partie des encadrants de tous ces jeunes, qui étaient répartis en petites fraternités. Il y avait des fraternités de mineurs et des fraternités de majeurs, parce qu'on avait quand même un petit contingent de mineurs, comme vous savez. Il fallait qu'ils aient 17 ans accomplis, qu'ils rentrent en terminale, en gros. Les autres étant des étudiants et des jeunes professionnels. Et les jeunes prêtres s'étaient répartis des catéchèses à l'intention des mineurs et à l'intention des majeurs séparément, à partir de l'évangile du jeune homme riche, cet évangile que le pape Jean-Paul II a tellement commenté, en particulier en direction des jeunes, lors des JMJ qu'il a instauré. Et donc, ça leur a permis de distiller toute une catéchèse, depuis la vie théologale, en passant par les commandements, évidemment la sexualité, l'amour, qui est un sujet important pour les jeunes de cette tranche d'âge, et puis qu'ils ont continué pendant les trois jours de retour et de relecture à Bayonne.
Et puis ensuite, il y a eu la semaine avec le pape, bien sûr, enfin les quelques jours avec le pape.
Voilà, la semaine avec le pape est très importante parce qu'elle est ponctuée par les rencontres avec le Saint-Père. D'abord l'accueil le jeudi soir, puis le chemin de croix le vendredi, puis la veillée le samedi soir et la messe de clôture et d'envoi le dimanche matin.
Mais il y a eu quand même, avant les célébrations du pape, il y a eu le temps des Français.
Voilà, je voulais y venir. En effet, ça a été très marquant parce que c'était une première.
Qui a commencé avec l'hymne de l'Aveyron Bayonne, d'ailleurs.
C'est vrai, il y a eu aussi dans la présentation des différentes régions présentes, ils ont eu le bon goût de faire chanter l'Aveyron Bayonnais pour tout ce qui était le sud-ouest, quand même. Donc on était quand même très fiers.
Donc c'était un temps spécial pour tous les 40 000 Français présents.
On avait eu l'idée, puisque je faisais partie, moi, du conseil épiscopal pour les jeunes, la passerelle des jeunes, on a eu l'idée de l'audace même de préparer un temps des Français pour 40 000 jeunes, sachant qu'à la fin, c'était même 45 000. Donc ça dépassait toutes nos espérances. Hein. Et donc le temps était un temps avec une belle progression. Peut-être que malheureusement, la première partie était un peu longue, en plein cagnard, au bord du Tage, hein, c'était magnifique. Ce qui fait que la dernière partie, qui avait une espèce de montée en puissance vers un temps très spirituel, ben, beaucoup de jeunes, malheureusement, étaient déjà partis. On va dire le tiers des jeunes étaient partis.
Il y a eu ce témoignage du footballeur.
Voilà, c'est ça. Alors donc, au début, il y avait un pré-show, bon, musique jeune, qui était un peu animé essentiellement par des groupes de pop louanges, et puis par un animateur qui était du Chemin Neuf, qui a peut-être été un peu trop long, parce qu'on avait imaginé que les jeunes entreraient lentement sur le terrain. En fait, ils sont arrivés assez vite. Bon. Ensuite, il y a eu des témoignages, dont celui d'Olivier Giroud, hein, qui était en préenregistré parce qu'il était aux États-Unis, il n'a pas pu se joindre à nous. Il a beau être évangélique, parce qu'il n'est pas catholique, mais il nous a fait un témoignage qui a beaucoup marqué les jeunes, extrêmement bienveillant aussi pour ce que nous étions, nous, hein, et ce qu'étaient ces jeunes. Après, il y a eu divers témoignages, peut-être aussi un peu longs, même si tout c'était très bien, la question n'est pas là, et qui terminait par une partie plus spirituelle, qui avait déjà été traversé par l'évangile de la pêche miraculeuse en Saint-Luc, au chapitre 5, et donc qui a été conclu par une proclamation de cette parole, une très belle homélie du cardinal Aveline, qui a vraiment s'adressé aux jeunes Français pour les inviter à se lever, à se rappeler qu'on était un peuple missionnaire et que c'était à eux de devenir des disciples et des missionnaires. Et puis, exposition du Saint-Sacrement, tant d'adoration silencieuse, mais ça on commence à être habitué, à 40 000, on l'a vu aussi à 1 500 000 le samedi soir. Les chants à ce moment-là, c'était la chorale de la route Saint-Martin, comme ça il y avait un peu tous les gens et tout le monde était invité à participer, chanter des chants méditatifs magnifiques, terminé par un salut du Saint-Sacrement, et ensuite une série de bénédictions pour inviter les jeunes à se lever, puisque le thème c'est « Marie se leva » et partie en hâte, hein, comme on le sait. Et donc, pour le service des pauvres, pour l'annonce de l'Évangile, donc il y avait une petite introduction, on invitait les jeunes à se lever, ceux qui voulaient se lever en réponse à la question, et à ce moment-là, tous les évêques étaient sur le podium. Alors on avait demandé premièrement aux jeunes de bénir les évêques, en levant les mains au ciel, pas en imposant les mains, évidemment. Donc c'est très émouvant, on était tous sur on était à peu près 70 quand même, hein, accompagnant tous ces jeunes. Et puis après, on était trois évêques qui donnions une bénédiction aux jeunes qui s'étaient levés à chaque demande. Et ben, c'était quand même très beau. Hein. Alors c'est dommage que cette partie qui était l'aboutissement un peu de toute la démarche n'ait pas été participée par tous.
C'est vrai que les JMJ, c'est aussi beaucoup la fête. Alors certains ont pu dire, est-ce qu'il n'y a pas eu assez de recueillement? Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'était quand même priant?
Moi, je crois que ça a été priant parce que nous, on avait, quand on avait la maîtrise du programme, dans le cadre des JM, de la semaine de Lisbonne, c'était peut-être un peu moins priant que d'habitude. Je dirais que la veillée était plus courte. Il y a eu ce temps d'adoration sans doute, avec 10 minutes de silence complet, 1 500 000, ça reste un miracle. Il n'y a que Jésus qui peut obtenir ça, après beaucoup d'euphorie et d'excitation, qui était aussi stimulée par une musique comme, qui se veut jeune, mais qui peut-être était un peu trop bruyante et perpétuelle. Finalement, je pense qu'il y a pas mal de jeunes Français, j'ai entendu ça dans notre groupe à nous, mais à d'autres, qui ont trouvé que c'était un peu trop. Quoi.
Mmh. Bon, après, il en faut pour tout le monde.
Sans doute, mais la préparation au grand temps fort, spirituel, et l'après était trop ponctué de musique zimboum. Quoi. Bon,
je crois qu'il y avait un DJ, Padre Guillermo,
voilà,
si j'ai bien...
Voilà. Alors, c'était un peu trop, et par rapport à d'autres JMJ, même à Panama, je trouve qu'il n'y avait pas cette place à ces temps d'intériorité aussi pour l'ensemble. Pour les catéchèses aussi, les catéchèses étaient un peu différentes. C'était pas l'évêque qui transmet une parole, même si après il se met à la disposition des jeunes pour les questions-réponses, comme ça se faisait initialement. Ça s'appelait « Rise up hein, »,« Lève-toi », mon mari se leva. Et l'évêque, la catéchèse était organisée de manière plus synodale, c'est-à-dire que les jeunes faisaient des petits groupes de partage, ce qu'il y avait toujours eu d'ailleurs, et après disaient sur le thème ce qu'ils en pensaient, et l'évêque avait un petit quart d'heure pour essayer de faire une synthèse. Donc c'était plus tout à fait la même... Et je pense que les jeunes ont parfois été frustrés de ça. Mmh. J'ai entendu pas mal de jeunes, en dehors du diocèse, mais aussi dans le diocèse, qui ont trouvé que ça manquait un peu de contenu cette semaine à Lisbonne.
Mmh. Le pape a été à la hauteur, parce qu'on le disait quand même fatigué.
Alors le pape est quand même impressionnant, parce qu'il passait pendant au moins une heure en plein cagnard, dans sa papa mobile décapotable, hein, au milieu des jeunes, donc toujours souriant, bénissant. Voilà, donc ça, c'était un très grand moment. Hein. Moi, j'avais dit, d'ailleurs, aux jeunes, vous ne mesurez pas la grâce qui est la vôtre. Le pape, c'est le successeur de Pierre. Donc, à travers le pape, qui qu'il soit, d'ailleurs, c'est Pierre qui est là. Et donc, la grâce que vous avez, c'est que, par la présence de Pierre, vous allez être confirmé dans la foi. Hein. Et je pense que pour tous ceux qui ont pu être au bord de la barrière, comme toujours, ils sont toujours impressionnés d'avoir vu le pape de si près. Après, le pape était fatigué quand même, parce qu'il ne marche plus. Donc il est apparu assez fragile, ça peut être aussi très touchant quand même pour les jeunes, sur son fauteuil roulant. Et sans doute fatigué aussi, il avait des textes préparés, mais il les a souvent laissés de côté pour parler d'abondance du cœur. Alors c'est à la fois très bien, mais du coup il a peut-être moins donné de contenu à son message. Mais à la fin, c'est pas très grave, on peut aller lire les textes après. Et sauf le dimanche où là il a été beaucoup plus, il a suivi plus fidèlement son texte avec trois mots importants qu'il a laissé un peu comme leçon de ces JMJ: briller, écouter et ne pas avoir peur. Hein, il a beaucoup insisté, je crois, pendant tous ces JMJ, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. Alors dans la cérémonie d'accueil, il a dit le Seigneur aime tous les hommes, il est venu pour tous, todos, 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 il a fait ponctuer ça par la foule, en disant que l'Église devait accueillir tout le monde avec amour. Et puis après, il a insisté sur ces jeunes qui n'aient pas peur de se lever, de marcher. Si quelqu'un tombe, relevez-le, levez-vous, ne restez pas dans votre canapé, comme il le dit si souvent. Et puis, soyez des pôles de lumière, écoutez Jésus, qui vous donne des paroles de vie éternelle, et n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur, ne vous découragez pas, quoi. Donc c'était un bel encouragement pour les jeunes.
Et après ? Quelle suite donner à ces JMJ dans le diocèse ?
Donc je me souviens que Emmerich Merkens avait dit, ce qui est important des JMJ, c'est N plus 1. C'est-à-dire, à quel engagement les jeunes se préparent après. Donc ils ont, dans la remontée, à Salamanque et Burgos, là, après les JMJ, avant d'arriver ici le 9 août, ils ont beaucoup insisté là-dessus, sur quels sont les engagements que les jeunes vont prendre. C'est le défi de la pastorale des jeunes renouvelée, hein, au terme de ces JMJ, que de prendre des moyens qui vont aider les jeunes à approfondir leur foi, pour ceux qui ont été très touchés de manière un peu nouvelle, parce que certains étaient un peu loin, hein, comme souvent. Ce n'est pas la journée des jeunes catholiques, c'est la journée des jeunes, par définition. Et puis, il y aura déjà un petit retour au jour dimanche, du pèlerinage diocésain, dimanche 17 septembre, l'après-midi, où ils vont témoigner de ce qu'ils ont vécu
à Lourdes. Dans le cas du pèlerinage diocésain, donc c'est la messe le matin à 10h, présidée par vous-même, Monseigneur. Voilà. Et puis l'après-midi, donc à 15h30, je crois, 15h30.
Voilà. Donc il y a une nouvelle équipe qui se met en place, puisque Emmerich Merkens nous a quittés. Puis de toute façon, il pensait que son mandat était terminé, ce qui est bien. Il a mené, je dois dire, je lui rends un hommage très particulier, parce qu'il a mené ses JMJ de main de maître, avec à la fois de la fermeté, mais beaucoup d'humour, comme il est, quoi. Hein. Et je pense qu'il a vraiment bien mené son affaire, en étant vraiment proche et à l'écoute de l'équipe, des encadrants, des prêtres qui étaient là. Il y avait quand même 12 jeunes prêtres qui ont accompagné pendant ces 15 jours. qui m'ont beaucoup impressionné aussi par leur proximité aux jeunes, vivant avec eux, au milieu d'eux, avec la distance évidemment nécessaire, et puis en même temps confessant sans cesse, toujours à l'écoute des questions, étant vraiment enseignant. Enfin bon, non, ça augure bien de l'avenir. Je vois que les jeunes adhéraient vraiment. Hein, j'ai eu l'impression que les jeunes adhéraient bien à tout ce qui leur était proposé.
Donc la nouvelle équipe.
Alors c'est Maxime Demain qui va prendre la responsabilité de l'équipe de la passerelle des jeunes et des vocations, mais avec d'autres personnes comme Jérôme Cangrand qui reprend du service au sein de la passerelle des jeunes, un jeune de Pau, une jeune fille de Sacré-Trois de la Côte Basque. Mmh. Comme autre prêtre, il y aura l'abbé, le don François-Xavier de Biarritz, l'abbé Fabien Damet, et puis une équipe plus constituée pour la passerelle des vocations, en lien avec la mission cycle Saint-Jean-Paul II de Luçon. Et là, sous la responsabilité toujours de l'abbé de Manque, mais il y aura Sœur Lucille, que j'ai oublié aussi dans la...
Des béatitudes de Naï.
Et puis Thierry Mattei, diacre permanent à Naï, et Fabien Damet, qui prendront plus en charge la passerelle des vocations.
Nous vous retrouvons dans quelques instants. Vous nous parlerez d'une initiative que vous allez susciter très prochainement dans le diocèse.
Radio La Pourdi.
Monseigneur Haye, nous reprenons avec vous cette émission. Vous nous parliez justement de la pastorale des jeunes qui se renouvelait et de la pastorale des vocations. Vous lancez cette année une grande année de la foi et de l'appel qui sera lancée donc fin novembre. Quel est l'objectif pour vous de cette année ?
Alors le premier objectif, quand on y a pensé, sachant qu'il y a plusieurs curés qui nous avaient déjà un peu sollicités par rapport à ce thème, je pense au curé de la Sainte Famille à Pau, et qui disait il faudrait qu'on fasse une année de l'appel. Bon, c'est vrai qu'on porte tous le souci des vocations spécifiques. Hein, on voit bien la vie consacrée, comment elle décline, hélas, en termes d'effectifs. On voit bien aussi au niveau des vocations sacerdotales locales, ben, c'est encore pas ça complètement. Hein. Et donc on s'est dit, ben, c'est une préoccupation qui est quand même partagée dans beaucoup de diocèses de France, mais il faudrait qu'on fasse une année de l'appel, la vocation. Bon. Et quand on en a parlé au Conseil épiscopal, on a beaucoup... et puis j'ai vu que certains disaient, ben oui, mais la vocation, ça se grève sur la foi. Et ça m'a rappelé cette parole de Monsieur Terrier, qui était évêque entre 44 et 57, ici à Bayonne, et qui disait « Les vocations sont le bouillonnement de la foi. » Et donc s'il y a une pénurie de vocations, c'est aussi peut-être parce qu'il y a un certain déclin de la foi. Donc il faudrait peut-être que nous envisagions de faire une année de la foi et de l'appel, dans le sens où qui aboutira quand même à un appel renouvelé aux vocations, mais à toutes les vocations. Vocation au mariage et à la famille, vocation au célibat, vocation au sacerdoce, vocation à la vie consacrée. Tout le monde a une vocation, quelle que soit son histoire et son état de vie. Mais ça se greffe sur la foi quand il s'agit d'une vocation chrétienne. C'est un appel de Jésus à faire quelque chose de grand de sa vie, ben, il faut être davantage à l'écoute de sa parole, d'où vient la foi. Alors, donc on a mis en place un petit programme qu'on va proposer, qui rejoindra des préoccupations déjà actuelles dans les communautés, d'autres ça pourra leur apporter quelque chose d'un petit peu nouveau, de simple, pour repartir des fondamentaux. En gros.
Donc avec trois étapes, c'est ça ?
Trois étapes, une première étape qui commencera dans les paroisses à partir du premier dimanche de l'Avent, même si le lancement sera le 26 novembre, jour du Christ Roi, qui coïncide avec la journée diocésaine des jeunes, parce que si on parle de la foi et de l'appel, autant que les jeunes sont un peu partie prenante. Dans les paroisses, ça pourra commencer au premier dimanche de l'Avent, donc une première période qui ira jusqu'au dimanche de la parole, le 21 janvier, le troisième dimanche d'ordinaire que le pape avait institué il y a quelques années. Puis ensuite, le temps du carême jusqu'à Pâques, puis après, le temps pascal jusqu'à la vigile de Pentecôte, où aura lieu Diocèse en fête, qui sera la conclusion de cette année de la foi et de l'appel. En espérant que ce soit un tremplin pour la suite, en particulier pour l'appel vocationnel, mais qui préparera aussi l'année sainte, parce qu'en 2025, le pape nous a convoqués pour l'année sainte. Alors il a, je crois, prévu, mais on n'en a pas beaucoup quand on peut aller en France, des années de préparation. On dira que cette année-là sera une année de préparation de l'année sainte en 2025.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement des fidèles ?
L'idée, c'est de proposer aux curés, d'abord, comme pasteurs de leur paroisse, de constituer dans leur paroisse des petites fraternités autour de la parole de Dieu. Et se réunir régulièrement pour scruter la parole ensemble.
Qui pourront durer après, en fait ?
Appeler à durer, si possible, une fois que c'est mis en place. Donc la première partie, sur la foi un peu comme connaissance, à travers le contact de la parole de Dieu. Voilà, comment la parole de Dieu résonne dans notre vie, finalement, et comment elle nous fait connaître le mystère de l'amour de Dieu, et qui pourrait être consolidé par des temps de catéchèse à l'initiative des curés, il y a pas mal de paroisses qui en proposent, à partir du catéchisme de l'Église catholique, pour que cette parole soit bien lue en Église, La deuxième partie, donc, qui se conclura le dimanche 21 janvier, en proposant aux paroisses de faire ce dimanche-là une récollection paroissiale ou un dimanche autrement, qui permettrait de recueillir les fruits de ces petites fraternités qui sont réunies autour de la parole. La deuxième partie, c'est la foi comme relation plus intime et d'amitié avec le Christ. Et donc là, on proposera de continuer ça, de ce qui est mis en place, mais on donnera des petites pistes pour découvrir ce que c'est que l'oraison. Et on va demander à des communautés présentes, comme les Prémontrés, comme Cotopaïs, de proposer des week-ends de récollection, accessibles à tous, sur l'oraison. L'oraison est le combat spirituel, en disant, cette relation avec le Christ, elle grandit sans doute à travers beaucoup d'autres choses, mais à travers un temps de cœur à cœur, une petite oraison que chacun peut intégrer dans sa vie, et aussi qui est à défendre contre tout ce qui nous empêche d'être en relation avec le Christ, donc c'est le combat spirituel. En mettant l'accent sur le sacrement de pénitence et de réconciliation, et en essayant de redonner du sens dans toutes les paroisses à ces fameux 24 heures pour Dieu, que le pape François avait instauré le vendredi et samedi qui précède le quatrième dimanche de carême. Voilà. Et donc on va essayer de mettre en place une petite pédagogie à l'usage des paroisses, comme ils voudront, sur redonner du sens au sacrement de pénitence et de réconciliation.
La troisième étape,
ce sera une étape de la foi comme témoignage et engagement, donc mission, où là prendra plus naissance l'idée d'un appel et d'une vocation, d'un appel vocationnel. Et donc là, on insistera sur l'Eucharistie, sans doute, comme lieu, source et sommet de la vie de la mission de l'Église, sur les adorations perpétuelles, sur les temps d'adoration dans les paroisses, et qui aboutira donc au samedi 18 mai, journée diocèse en fête, qui sera à la fois une journée de redditio, c'est-à-dire comment on va rendre compte de sa foi dans sa vie concrète, et d'appel vocationnel, en particulier à travers le témoignage de vocation plus spécifique dans l'Église. Voyez.
Il y aura aussi une marche pèlerinage.
Alors peut-être qu'on... il y aura aussi, à partir du dimanche des vocations, la journée mondiale de prière pour les vocations, qui est le quatrième dimanche de Pâques, donc je crois que c'est le 18 avril, me semble-t-il, jusqu'au 18 mai, il y aura donc cette marche pèlerinage avec une vierge pèlerine, sans doute de Bétharram, qui ira de lieu en lieu. Donc il y a toute une petite pédagogie qui va se mettre en place, et les lieux qui accueilleront feront une petite animation. Les fidèles qui voudront seront invités à marcher un peu une partie, peut-être une petite étape ou un petit bout d'étape. Donc pour sensibiliser aussi à l'importance des vocations.
Une année donc riche.
Et il y aura aussi avec les prêtres.
Oui, comme on a instauré au niveau de la province une marche pèlerinage des prêtres pour les vocations l'an dernier, donc c'était à Buglos, on s'est dit en province qu'il faudrait qu'une année sur deux, ça se fasse en diocèse. Donc il y aura une marche pèlerinage le mardi 5 décembre, si je me souviens bien, qui aura lieu entre le Rocher de Biarritz et Notre-Dame du Refuge, et qui permettra aux prêtres de marcher pour les vocations, de prier ensemble, etc.
Nous vous retrouvons dans quelques instants pour parler des événements à venir dans le diocèse.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous terminons cette émission avec vous, Monseigneur Hayet, pour parler du grand événement qui aura lieu ce week-end. C'est le pèlerinage de l'hospitalité basco-béarnaise. Et au sein de ce pèlerinage, le grand pèlerinage diocésain, tout le monde est invité à Lourdes ce dimanche. Alors pourquoi est-ce qu'il faut venir, même si on ne fait pas partie de l'HBB ?
Ah ben parce que, d'abord, beaucoup de gens font partie de l'HBB quand même. Parce que, comme vous savez, cette année, on fait toujours le plein. Maintenant, c'est fini, les années du Covid sont derrière nous. Donc je crois qu'il y a quand même plus de 400 malades qui sont présents, au moins 1200 hospitaliers, dont 200 jeunes. Donc c'est c'est un beau visage en tout cas de service hein, de l'Église servante de notre diocèse. Mais il y a cette journée du dimanche où on invite les diocésains de manière beaucoup plus large à participer à ce pèlerinage. Pourquoi c'est important de venir ? Parce que, comme je le dis chaque année, pour moi, ce dimanche de septembre, qui permet de rassembler un nombre assez important de diocésains, à Lourdes, quand même un lieu tout à fait particulier, autour des malades et de ceux qui sont au service des malades, qui sont vraiment intégrés de manière vraiment concrète dans notre église diocésaine, eh bien, c'est un peu la rentrée du diocèse. Donc je pense que c'est bien de se rassembler tous pour lancer un peu l'année, ensemble, dans la prière et dans un nouvel élan, et en particulier certainement que je ferai référence à cette année de la foi et de l'appel, sachant aussi que le thème décliné du message de la Sainte Vierge à Bernadette, c'est qu'on y bâtisse ici une chapelle. Donc c'est tout aussi un beau programme. Et puis en plus, cette année, il y aura aussi l'après-midi le retour des JMJ, et le témoignage des jeunes devant les malades, devant les diocésains. Donc je pense que c'est aussi très important que tout le monde se sente concerné, parce que les jeunes, ce n'est pas seulement l'avenir de l'Église, mais c'est le présent de l'Église. Donc je pense que c'est important de venir les encourager, et puis de se rendre compte aussi de quelles sont leurs aspirations hein, aujourd'hui.
Donc la messe aura lieu à 10h à l'église Sainte-Bernadette de Lourdes, voilà. Donc présidée par vous-même. Et puis l'après-midi, donc à 15h30, il y aura ce retour, un temps de prière avec ce retour par les jeunes qui ont participé au GMJ de Lisbonne. Et puis à 17h, il y aura la procession du Saint-Sacrement.
Voilà. Et ceux qui veulent venir dès le samedi soir, ils savent qu'il y a la procession au flambeau, hein, le samedi soir à 21h, où le diocèse prend une place tout à fait prépondérante.
Autre événement, c'est la venue du pape à Marseille. Vous y allez ?
Bien sûr, j'y serai.
Vous n'êtes pas un évêque de la Méditerranée, pourtant, non. Maintenant.
Non, je ne suis pas évêque de la Méditerranée, mais je crois que c'est important, parce que c'est vrai qu'au départ, le pape venait, pas pour la France, il nous l'a assez dit, il vient à Marseille, mais pas pour la France. Bon, très bien. Pourtant, Marseille est quand même une ville française, contrairement à ce que certains disent avec Parboutade. Bon, cependant, si ce rassemblement a lieu à Marseille, le cardinal Aveline a fait part, au nom de tous les évêques d'ailleurs, mais en tant qu'archevêque et cardinal en plus, donc conseiller du pape particulièrement, a écrit une lettre au pape en lui disant « Vous ne pouvez pas venir à Marseille, même si c'est pour la Méditerranée, pour conclure notre symposium de la Méditerranée, vous ne pouvez pas venir là sans prier avec le peuple de Marseille et le peuple de Dieu qui est en France. » Et donc le pape, même s'il a répété souvent qu'il ne venait pas en France mais à Marseille, s'est pris au jeu et a donc accepté de monter donc à Notre-Dame-de-la-Garde le samedi matin, je crois, et puis l'après-midi de présider une messe ouverte à tous au stade Vélodrome, donc pas pour soutenir l'OM, mais pour encourager l'Église de France. Hein. Et c'est pourquoi le cardinal Vin, avec le président de la conférence des évêques de France, a invité tous les évêques qui pourront à être là, et puis les diocésains de manière un peu large. Bon, alors, je ne sais pas qui viendra. Je crois qu'il y a encore des places.
On a un groupe, effectivement, qui part avec le diocèse, organisé par les pèlerinages diocésains. Voilà. Mais vous serez parmi les évêques, vous n'accompagnez pas ce groupe.
Je ne vais pas pouvoir l'accompagner, parce qu'ils reviennent trop tard, parce que moi, il faut que je sois rentré pour l'installation d'un curé le dimanche après-midi. Donc, je partirai le vendredi après-midi, et je reviendrai le dimanche matin.
Voilà, donc un aller-retour express à Marseille pour voir le pape.
C'est bien que les évêques de France viennent manifester concrètement leur communion autour du Saint-Père qui vient quand même dans notre pays.
Du 4 au 29 octobre, ce sera ce fameux synode sur la synodalité. Monseigneur Hayet, est-ce que vous irez à Rome ?
Ah non, moi je ne fais pas partie des délégués qui ont été élus par la conférence évêques de France pour participer au synode.
Donc c'est un synode sur la synodalité.
Oui.
Qu'est-ce que vous attendez ?
Ben, je ne sais pas très bien aujourd'hui, parce que j'ai été très séduit par le thème que le pape nous a donné.
Est-ce qu'on peut réexpliquer le terme quand même que tout le monde ne connaît pas ?
Alors synode, synodalité, ça veut dire marcher ensemble. Hein ? Synodos, hein, odos, c'est le chemin, la voie, la route, et syn, c'est ensemble. Donc c'est marcher ensemble, faire route ensemble. Bon. En gros, comme le thème l'indique bien, communion, participation, mission, c'est insister sur le fait que l'Église est une communion, communion de tous les états de vie, de tous les ministères, de tous les, avec un point commun qui est le baptême. Voilà, nous sommes tous des fidèles du Christ par le baptême, nous appartenons tous au peuple de Dieu par le baptême, que nous soyons laïcs, consacrés ou ministres ordonnés. Et donc c'est le meilleur de voir comment cette communion qui est ordonnée à la mission d'annoncer l'Évangile, parce que l'Église, comme disait le pape Paul VI le disait au 10e anniversaire du Concile dans son exhortation apostolique sur l'évangélisation du monde moderne, l'Église existe pour évangéliser. Et notre grand souci, depuis le Concile Vatican II, qui traverse les pontificats successifs jusqu'au pape François compris, c'est comment annoncer l'Évangile de manière nouvelle au monde d'aujourd'hui. Comment l'Église doit avoir un visage qui permette d'être rayonnant du visage du Christ. Voilà. Avec tous les déboires et toutes les rides et tous les accidents de parcours que nous connaissons ô combien. Et donc, moi, ça me séduit, ça. Comme disait le pape Jean-Paul II, il disait l'Église, c'est un mystère de communion missionnaire. Alors, entre communion et mission, il y a participation. C'est-à-dire, comment les laïcs, les prêtres, les consacrés, en co-responsabilité de cette unique mission d'annoncer l'Évangile, eh bien, vont participer, sont appelés à participer pleinement à cette mission de l'Église. Jusque-là, pas de souci.
C'est après que ça se corse.
Oui, parce que la seule chose qui m'inquiète, peut-être qu'on n'a pas été très bons dans les diocèses en général, hein, à commencer par nous, ici à Bayonne, moi je ne dis pas qu'on a été très performants, hein, mais on n'a pas su mobiliser tout le monde. Et se sont sentis concernés, c'est vrai, davantage ceux qui sont habitués à ce genre de discussion interne et qui ont quand même un peu tourné, me semble-t-il, c'est un petit peu ça mon inquiétude, mais que je dis d'une manière très libre et sans jugement de personne, hein, qui ont un petit peu tourné essentiellement sur les questions de fonctionnement. Qui fait quoi ? Dans un esprit parfois un peu de compétition de pouvoir, quoi. Et c'est un peu dommage. Et quand je lis, de fait, au terme de cette consultation du peuple de Dieu dans les diocèses et de manière continentale, l'instrumentum laboris qui a été élaboré à partir des synthèses diocésaines et continentales, c'est vrai que les questions de fonctionnement, d'organisation, reviennent un peu de manière obsessionnelle. C'est un mot dont j'assume la paternité, qui est sans doute un peu excessif, hein, mais voilà. Et on revient à des questions qui me semblent quand même déjà réglées dans l'Église, comme l'ordination des femmes, l'abolition du célibat sacerdotal pour certains, l'inclusion de toutes les catégories possibles et imaginables. Ça ne veut pas dire que l'Église n'est pas ouverte à tous, bien sûr, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai peur que ce soit un peu des combats entre guillemets d'arrière-garde, pardon de dire ça, hein. Pourquoi je dis ça ? Parce que les évêques, on s'est tous accordés en juin 2022, quand on s'était rassemblés à Lyon, pour envoyer la collecte des synthèses diocésaines, pour dire que manquait à l'appel des catégories importantes du présent et de l'avenir de l'Église, à commencer par les jeunes, qui ne se sont pas sentis concernés.
Et pourtant, ils étaient au GMJ.
Eh bien, ils étaient au GMJ, oui.
Comment faire alors pour les concerner davantage ?
Il faut d'abord être à l'écoute de leurs aspirations. Qu'est-ce qu'ils demandent, les jeunes ? Ils ne demandent pas que je parle des jeunes qui sont...
Ils demandent la messe en latin.
Non, pas plus que la messe en latin que la messe en français ou en basque. Ils demandent une liturgie, c'est vrai, qui les élève, ça c'est vrai. Ils ont soif.
Mais la liturgie que vous célébrez quand vous célébrez à la cathédrale, c'est la liturgie de Paul VI que vous célébrez.
Et c'est très bien.
Elle n'élève pas cette liturgie.
Mais si, elle est parfaitement. Je n'ai pas parlé de... Moi, je ne suis pas en train d'opposer. Je pense que nous, on a célébré la messe de Paul VI en français pendant tous les JMJ. Hein. On n'a pas célébré la messe en latin avec les jeunes du diocèse. Mais c'était des messes qui élèvent. Parce que les jeunes mettent tout leur cœur, parce qu'ils participent.
Dans nos paroisses, ça ne les élève pas.
Je ne dis pas que ça ne les élève pas. Ah non, mais...
Non, mais on a un peu cette impression quand même.
Non, je suis en train de dire, il faut écouter les aspirations des jeunes. Et vous me demandez ce qu'ils demandent. Mais je dis, ils demandent des messes avec un sens du sacré qui les élève. Mais c'est possible partout. Je pense qu'une messe avec des bouches en basque, ça élève profondément. Et je crois qu'ils y sont très sensibles s'ils ont l'occasion de d'y participer. Hein. Mais dans toutes les... Il n'y a pas de barrière. Ça peut être la messe en latin, c'est vrai, qui peut attirer les jeunes, mais c'est des messes avec les chants de l'Emmanuel, charismatique et compagnie. Du moment qu'il y a une verticalité dans la messe, je pense que ça les touche profondément. Mais pas seulement, ils demandent aussi des temps de fraternité. Ils sont très tournés aussi vers les pauvres. Ils demandent de pouvoir s'engager dans le service des plus pauvres. On voit beaucoup de jeunes qui ont qui font des choses remarquables dans ce domaine. On me parlait d'une jeune fille qui pendant 3 ans a fait partie de l'APA à Paris, c'est-à-dire vivre avec des SDF et vivre en colocation avec eux, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et ils demandent aussi, je pense, à une formation profonde sur le plan doctrinal. C'est manifeste qu'ils recherchent les catéchèses. Certains, pas seulement dans notre diocèse, mais je l'ai entendu, d'autres jeunes d'autres diocèses, ont été un peu frustrés des rise-up cette année. Parce qu'ils n'ont pas...
C'est que les catéchèses des GMJ.
Oui, les catéchèses des GMJ, oui.
Pour ceux qui n'étaient pas.
Ils demandaient peut-être un peu plus de contenu de formation, vous voyez. C'est ça que je me dis.
Donc pour les intégrer à ce synode, comment faire? Peut-être trouver des...
Maintenant, c'est trop tard, hein, parce que le synode, c'est les évêques maintenant. Oui.
C'est les évêques, mais bon, pour la première fois, quand même, il y aura des non-évêques.
Oui, sans doute, mais pas très nombreux par rapport aux évêques, quand même.
Oui, voilà, mais...
C'est le synode des évêques. Hein.
Mais
si vous lisez le texte de la Commission théologique internationale, qui date de 2018 sur la synodalité dans l'Église, qui est le texte de référence du premier document que nous avons reçu du secrétaire du synode romain, il y a deux polarités. Il y a le peuple de Dieu qui a été consulté, et puis il y a les évêques qui se ressaisissent. Alors, peut-être qu'il y aura des laïcs, non, ça ne me gêne pas du tout, hein, mais c'est quand même...
Non, moi j'ai compris qu'il y avait des non-évêques, c'est-à-dire des laïcs, qui auront droit de vote.
C'est possible, moi je suis pas dans la... Mais qu'importe, la plupart sont des évêques quand même, donc ça reste le synode des évêques, le discernement des évêques, à partir de ce qui a été entendu du peuple de Dieu, hein, dans les phases précédentes.
Mais il y a quand même...
Et puis finalement, le pape se ressaisit tout seul du reste.
Il y a quand même une opposition de certains évêques à cette synodalité voulue par le pape. Comment vous l'interprétez, vous?
Voulu par le pape, on verra bien ce qu'il écrira, parce qu'on ne sait pas très bien. Le pape a demandé un synode qui est tout à fait dans l'ordre de la tradition de l'Église. Hein, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je crois que c'est important, évidemment, de consulter le peuple de Dieu. Ça fait partie de la vie de l'Église.
C'est-à-dire qu'il y a quand même ce synode de l'Église allemande qui a fait peur à certains.
Alors, c'est ça. Ce qui peut faire peur, c'est que la démarche synodale allemande... Elle n'est pas tout à fait dans les clous de ce que c'est que la synodalité dans l'Église.
Même le pape a un peu tensé.
Complètement. Il a même dit un jour, de manière petite de boutade, comme il le fait dans l'avion, mais il a même dit on a déjà une bonne Église protestante en Allemagne, on n'en a pas besoin d'une seconde. Alors c'est quand même un peu. C'est évidemment des tacles qui ne sont pas faciles à entendre, mais il a quand même prononcé ça. Et il s'est inquiété aussi de la tournure du synode. Le synode, c'est consulter le peuple de Dieu à partir du sensus fidei. Le sensus fidei, tel qu'il est défini dans la Constitution Lumen Gentium numéro 12, c'est l'adhésion unanime du peuple de Dieu, premier des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, à ce que l'Esprit Saint dit à l'Église, donc au contenu de la foi, sous la conduite du magistère. Bon, voilà. Donc, on s'écarte du magistère, on n'est plus tout à fait dans la synodalité.
Ce dont on peut être sûr, Mgr Ali, c'est que l'Esprit Saint aura du travail au mois d'octobre.
Voilà, il aura du travail, et moi, c'est la paix dans laquelle je suis. Autant je suis réservé par rapport à ce que j'ai lu dans une bonne partie de l'Instrumentum Laboris, mais en même temps, je me dis que ce n'est qu'un document de travail. Après, l'Esprit Saint est à l'œuvre dans cette assemblée qui va avoir à discuter et faire des propositions à partir de ce texte.
prions, invoquons l'Esprit Saint pour.
Bien sûr, mais ça faut toujours le faire.
Pour le peuple de Dieu, dont font partie les évêques.
Eh bien oui,
comme
on
vous
fait
le soulignez.
C'est tout. On en fait aussi partie, nous. Pleinement.
Merci beaucoup, Mgr Marc Caillé, voilà. Pour cet entretien. Merci à Violaine Ricourt-Dumas et merci aux auditeurs de Radio Présence Lourdes-Pyrénées et de Radio Lapourdi. Merci à tous.